Bonjour, pas de discrimination des personnes âgées dans le déconfinement, au moins les choses sont claires. Clarifiées par un communiqué de l'Élysée, les plus anciens qui s'inquiétaient de devoir rester isolés bien au-delà du 11 mai sont soulagés, même s'il reste une population à risque qui doit toujours se protéger, nous dira Véronique Julia. Dans l'actualité de ce samedi, quel pouvoir pour les maires dans le respect du confinement? Le Conseil d'État a tranché, et pas forcément en faveur des élus locaux d'ailleurs. Invité de ce 13h, l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, Patrice Spinozzi, la LDH qui a attaqué plusieurs arrêtés pris dans des communes de France pour obliger notamment le port du masque. À suivre aussi cette aide aux entreprises dans le budget exceptionnel qui fait tiquer les ONG de défense de l'environnement. Un robot qui nettoie aux UV les couloirs d'un hôpital de Villeurbanne, évidemment plus efficace qu'un nettoyage à la main. Situation dramatique dans un EHPAD au Canada, déserté par ses soignants. Trump qui pousse pour une sortie du confinement rapide aux États-Unis, et puis un conseil culture avec la spectaculaire série Killing Eve. 13h30 tout à l'heure, CO2 mon amour dans la maison de Léonard de Vinci au Clos Lucé, et juste avant la météo, de plus en plus de nuages cet après-midi.
France Inter.
Il n'y aura pas de discrimination des personnes âgées quand viendra le temps du déconfinement, rassure l'Élysée dans un communiqué hier soir. Changement de ton, mise au point, appelez ça comme vous voudrez, mais sur le sujet, l'exécutif a ressenti le besoin de préciser le discours du chef de l'État lundi dernier. Voilà les premiers intéressés soulagés. Hélène Chevalier a tendu le micro France Inter sur un marché de Normandie à Falaise, dans le Calvados.
Masque sur le visage et sac de commission bien garni, Armel, 70 ans, patiente pour acheter des plants de légumes pour son jardin. L'annonce d'Emmanuel Macron, c'est pour elle...
un véritable soulagement. Ah bah oui, parce que déjà je travaille, moi je transporte des enfants handicapés. Et dans la société pour laquelle je travaille, nous on a des tout petits contrats qui correspondent très bien aux personnes à la retraite qui ont des tout petits moyens. Et donc c'est des contrats de 3-4 heures. Donc on ne pouvait plus travailler.
Et ce n'est pas cette senior qui attend derrière elle à un bon mètre de distance qui la contredira.
Parce qu'on n'est quand même pas des animaux non plus. Hein. Et puis on a besoin d'air comme tout le monde.
Marie-Jo, institutrice à la retraite, est certes aussi soulagée, mais aurait pris son mal en patience s'il avait fallu prolonger le confinement pour les plus de 65 ans.
Je crois qu'il y a beaucoup d'inconnus avec ce truc et qu'ils ne savent pas très bien quelle décision prendre.
En revanche, pour Liliane, 80 ans, seule dans sa maison à la campagne...
Ah ben les journées sont longues, moi j'habite toute seule, hein. Ça fait déjà très longtemps que je suis veuve, donc je vais pour dire personne de la semaine. Le facteur, je le dois penser, mais bon, j'ai pas le temps d'aller lui dire bonjour. Ça fait beaucoup quand même, hein. Je veux pas dire que ça agira pas sur mon moral. Hein.
Comme beaucoup de seniors interrogés sur ce marché, cette grand-mère attend avec impatience le 11 mai pour, espère-t-elle, pouvoir garder à nouveau ses petits-enfants. Elle ne les a pas vus depuis maintenant plus d'un mois.
Hélène Chevalier en Normandie. Alors que les personnes âgées aient pu se sentir mises à l'écart, l'ancien député socialiste Jérôme Guedj comprend ce sentiment. Lui qui a été nommé à la tête d'une mission de lutte contre l'isolement des plus anciens en ces temps d'épidémie, il se dit rassuré par ce recentrage de l'Élysée.
Les gens n'aiment pas les discriminations et encore moins les discriminations liées à l'âge. Et donc, il y a pu avoir la crainte que la poursuite du confinement au-delà du 11 mai pour les personnes les plus fragiles se traduise par une fixation d'une barrière d'âge qui n'était pas entendable, d'abord parce que difficile à mettre en œuvre, qui allait la contrôler, sur la base de quels critères, et aussi forcément stigmatisante, puis surtout qui méconnaissait, et le président de la République sur ce point-là y a clairement répondu, le principe de responsabilité individuelle. Les personnes qui se savent fragiles, quel que soit leur âge, et qui voient tous les jours que le Covid tue d'abord et massivement les gens les plus fragiles, eh bien, ils vont prendre leur responsabilité par eux-mêmes, avec les conseils que leur médecin pourra leur prodiguer. Je crois qu'il y a un rôle essentiel du médecin traitant. Et donc voilà, je suis plutôt content que puisse être tué dans l'œuf un début de polémique, et ce faisant, de rappeler que c'est jamais bon de mettre des barrières d'âge, parce qu'on sait quand on commence, on ne sait pas quand on s'arrête.
Jérôme Guedj, interrogé par Cyril Gradiani. Alors dans sa mise au point, l'Élysée en appelle toutefois à la responsabilité individuelle. Et si Emmanuel Macron avait évoqué un plus long confinement pour nos anciens, ce n'est pas pour rien. Il ne faut pas baisser la vigilance et continuer à respecter les gestes barrières, car les plus âgés restent, Véronique Julia, une population à risque.
Les seniors sont clairement une population à risque. Il suffit d'observer les chiffres en réanimation. réanimation, les deux tiers des patients ont plus de 60 ans et la mortalité Covid touche dans 82% des cas des plus de 70 ans. Cette vulnérabilité s'explique par le fait que plus on est âgé, moins les défenses sont efficaces face à une infection. On parle d'immunosénescence, le système immunitaire est moins performant. Et puis en vieillissant, on multiplie les facteurs de risque, les comorbidités comme du diabète, une insuffisance rénale. Mais attention, prévient le gériatre Christophe Trival, même les seniors bien portants doivent se méfier.
On voit bien par exemple les médecins qui étaient à la retraite, qui se sentaient bien, qui se sont dit ben, « je vais venir aider dans le Grand Est ». Malheureusement, dans les décès, c'était ces médecins de plus de 60 ans qui sont décédés. Ce n'est pas de l'agisme de dire qu'ils sont à risque. En gériatrie, on voit que le virus diffuse d'une façon extrêmement forte et qu'il fait des ravages vraiment chez les gens âgés.
Mais rester à l'isolement a ses inconvénients aussi. Le manque d'exercice fait perdre de la masse musculaire, il peut accélérer la perte d'autonomie. Il y a le facteur psychologique aussi. L'Académie de médecine, qui s'oppose ardemment au déconfinement par tranche d'âge, a d'ailleurs insisté avant-hier sur les souffrances morales liées à l'isolement. La solution est probablement dans l'entre-deux, résume Christophe Trival. La liberté, certes, mais très, très protégée.
Le déconfinement progressif, mais pour tous, donc à partir du 11 mai. Le Premier ministre et celui de la Santé tiendront conférence de presse demain après-midi et devraient, si ce n'est donner une feuille de route, éclaircir au moins sur la méthode. Faire respecter le confinement actuellement, accompagner aussi le déconfinement, impossible de faire sans les élus locaux, sans les maires. Pourtant, le Conseil d'État a tranché hier en limitant leur pouvoir. Il confirme l'annulation de l'arrêté du maire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, qui imposait le port du masque sur sa commune. Les maires donc ne peuvent pas prendre d'autres mesures que celles décidées par l'État, dit le Conseil d'État. Invité de ce journal, l'avocat Patrice Spinozzi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avocat notamment de la Ligue des droits de l'homme qui avait dénoncé l'arrêté du maire de Sceaux. La Ligue des droits de l'homme annonce aussi ce matin qu'elle va attaquer la ville de Nice. Pourquoi ?
Eh bien, nous attaquons dans la même logique que l'arrêté de Sceaux, les arrêtés municipaux qui ont été pris à Nice, qui instaurent un couvre-feu qui est plus étendu que celui qui a été pris par le préfet. Donc là encore, nous tombons dans des pouvoirs qui sont pour nous disproportionnés des maires, puisque comme nous avons obtenu que le Conseil d'État le consacre, le principe aujourd'hui, c'est que les restrictions aux libertés ne peuvent être prises que par l'autorité gouvernementale et certainement pas par les élus locaux.
On est bien d'accord, Patrice Spinozzi, que la décision du Conseil d'État crée une sorte de précédent qui va vous permettre de contester d'autres arrêtés au-delà de celui de Sceaux et de Nice ?
Oui, bien sûr, puisque c'est une décision de principe qui a été rendue par le Conseil d'État, qui fixe le cadre du pouvoir de police des élus locaux et qui le limite drastiquement lorsqu'ils interviennent en matière sanitaire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ce que dit le Conseil d'État et ce que nous cherchions à lui faire dire, c'est que en cette matière, il faut qu'il y ait une politique nationale organisée et que dans ces conditions, les élus locaux ne peuvent pas aggraver les mesures qui auront été décidées par le gouvernement.
Vous avez comment à l'évoquer. En quoi ça pose un problème que les élus locaux, les maires notamment, prennent ces arrêtés qui ne concernent que leur commune ?
Alors, le risque important que nous voyons à la Ligue des droits de l'homme, c'est un risque de surenchère politique entre les différentes mairies, chacun cherchant à mieux protéger ou à plus protéger ou à montrer qu'il protège plus ses citoyens. Et dans ces conditions, au lieu d'avoir une politique sanitaire harmonieuse, on risquait d'avoir toute une série d'atteintes potentiellement de plus en plus disproportionnées aux libertés qui dépendaient du bon vouloir des conseils municipaux. Donc notre but, c'était d'éviter cette surenchère politique, d'éviter ce comportement un peu de shérif où chaque maire décidait de la loi et des mesures contraignantes dans sa ville et qu'il n'y ait qu'une seule solution qui soit adoptée par le gouvernement et qui puisse être la même pour tous.
Et qui peut être aussi un discours brouillé sur le plan sanitaire, évidemment.
Le danger est évidemment qu'avec des arrêtés qui seraient distants, différents d'une mairie à une autre, eh bien on ait une confusion. D'ailleurs, c'est ce qu'a relevé le Conseil d'État dans le cadre de la décision sur Sceaux, où il y avait une interdiction de toute sortie lorsque on ne portait pas un masque et où il était prévu qu'on pouvait porter, par exemple, une écharpe à la place d'un masque. Et le Conseil d'État relève qu'il y a là un danger parce qu'il y a une assimilation entre le port du masque et le simple port d'une écharpe. Donc on voit bien, il y a là des enjeux qui sont sont des enjeux importants de salubrité publique et il importe que ce soit l'État qui fixe les règles et non pas les élus locaux.
Patrice Pinozzi, comprenez-vous qu'il puisse y avoir quand même des villes où c'est nécessaire de prendre des mesures particulières ?
Bien sûr, mais d'ailleurs la loi prévoit cette hypothèse. Oui. Dans ces conditions, c'est au préfet, qui est le représentant de l'État, d'intervenir comme il l'a fait à certaines occasions.
Donc vous préconisez un lien maire-préfet ?
Il y a une opposition qui est très claire, qui est posée par la décision du Conseil d'État. Mmh. Le préfet, lui, est autorisé à prendre des mesures qui seraient des mesures spécifiques locales, comme ça a été le cas à Paris, par exemple, où on a vu que l'interdiction des joggeurs a été prononcée par un arrêté préfectoral. Mais ça n'est que le préfet qui est susceptible de pouvoir le faire, et certainement pas un élu local comme un maire.
On parlait de brouiller le message. Est-ce que cette bataille judiciaire, finalement, entre vous et les maires qui dépose ses arrêtés ne peut pas là aussi brouiller le message?
Écoutez, je n'espère pas. En tout cas, la Ligue des droits de l'homme, elle se bat pour le respect des libertés individuelles de chacun et pour éviter que, il y ait autant de régimes de confinement ou de déconfinement qu'il y a de communes en France. Les questions ici sont très sérieuses, aussi bien au regard de la santé des personnes qu'au regard des atteintes aux libertés fondamentales. Il faut qu'il y ait une harmonie qui soit créée à cet égard. Le législateur est intervenu. Il a donné ce pouvoir exceptionnel d'atteinte aux libertés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire au gouvernement, et le Conseil d'État l'a réservé au gouvernement. Donc nous espérons très clairement que nous ne rajoutons pas de la confusion, tout au contraire, nous cherchons à éclaircir la situation et à éviter la multiplicité des régimes dérogatoires.
Une toute dernière question, s'il vous plaît, Patrice Spinozzi. On parle beaucoup de l'application Stop Covid qui permettrait de tracer les malades du coronavirus et de prévenir ceux qui en auraient croisé. Est-ce que vous restez vigilant sur ce sujet? Est-ce que ça vous inquiète?
Bien sûr, évidemment. Il faut évidemment être extrêmement vigilant. Pour le moment, nous n'en sommes qu'à l'invocation de cette mesure, mais le président de la République lui-même a bien relevé qu'il y avait un risque très important d'atteinte aux libertés fondamentales, et il a affirmé que dans l'hypothèse où cette mesure serait prise, cela ne le serait qu'après un débat au Parlement. En tout cas, la Ligue des droits de l'homme, comme beaucoup d'autres associations de défense des libertés, est extrêmement attentive et extrêmement vigilante à cette utilisation qui pourrait être faite des données personnelles.
Patrice Spinozzi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation dans le 13h d'Inter. Le budget de crise, lui, a été adopté cette nuit par l'Assemblée nationale. 110 milliards d'euros qui doivent permettre de financer notamment le chômage partiel ou de verser une aide aux soignants et aux plus modestes. Une mesure toutefois fait tiquer les ONG de défense de l'environnement. Les 20 milliards prévus pour recapitaliser certaines entreprises dites stratégiques, Air France ou Renault par exemple. Greenpeace dénonce un chèque en blanc aux pollueurs, sans condition sur le respect de l'environnement. Clément Sénéchal, le porte-parole de Greenpeace.
L'État aurait pu demander à chaque entreprise une réduction stricte et drastique des émissions de gaz à effet de serre annuelles. Il aurait pu demander des contreparties en termes de gouvernance dans l'entreprise, hein, pour s'assurer que les choix qui sont faits, les choix d'investissement, de développement, sont bien conformes avec les exigences environnementales actuelles. Voilà, il aurait pu mettre un mécanisme de sanction au cas où les entreprises ne respecteraient pas les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre à la baisse. Mais non, on préfère faire un chèque en blanc. Et je rappelle qu'il manque 15 à 18 milliards par an pour la transition écologique. Et là, on va donner 20 milliards à des grandes entreprises comme Air France, Renault ou Vallourec. Donc malheureusement, on risque de perdre encore 10 années de plus sur le front du changement climatique, alors que les scientifiques nous disent qu'il ne reste que quelques années si on veut vraiment parvenir à se mettre sur une trajectoire qui soit conforme à l'accord de Paris.
Et Clément Sénéchal, porte-parole de Greenpeace, avec Célia Kyré. Et devant les députés, Bruno Le Maire dément, il ne s'agit pas d'un chèque en blanc, assure le ministre de l'économie, qui demande à ses entreprises de s'engager pour une économie décarbonée. Sur le front de l'épidémie, signe toujours encourageant en France. Nouvelle baisse du nombre d'hospitalisations en réanimation hier. Dernier chiffre donné par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. 760 décès supplémentaires en 24 heures. 18 600 morts sont dus au coronavirus au total. Ne relâchons pas nos efforts, le confinement commence à porter ses fruits, dit-il. En première ligne face au virus, évidemment, à Paris, les hôpitaux de l'AP-HP. Dans l'un d'entre eux, le manque de matériel inquiète sérieusement. Hier après-midi, l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement, a réuni en urgence son comité hygiène et sécurité. Le syndicat Sud, Timur Özturk, a lancé une procédure pour danger grave et imminent.
Si son syndicat lance cette alerte, c'est pour que les risques que prennent les soignants ne soient pas oubliés après la crise, explique Hervé, secrétaire de Sud à Tenon.
C'est dans la perspective de suite, hein, pour la sortie de crise, le déconfinement et quand on va avoir besoin de retracer les responsabilités de tous.
Le signalement revient sur le rationnement, voire la pénurie de matériel de protection.
Aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a plus une seule surblouse de disponible. On n'en a plus.
Autre inquiétude, les hospitaliers infectés par le coronavirus reprennent leur poste au bout d'une semaine seulement s'ils ne présentent plus de symptômes.
Une personne qui a été déclarée Covid positif, qui revient travailler avec vous au bout de 8 jours, c'est anxiogène comme situation.
Mais Hervé sait que sa direction, comme celle de la PHP, ne pouvait pas mieux protéger leurs salariés sans stock suffisant de masques après des années d'économies budgétaires à l'hôpital.
On a distribué des masques périmés. Vous pensez bien que la direction ne s'est pas amusée à distribuer des masques périmés. Non, c'est parce que c'était ça ou rien. Moi, j'en ai pas spécialement après de la direction. Par contre, les responsabilités seront certainement à chercher plus haut.
À l'hôpital Tenon, 200 de ses collègues ont déjà été contaminés.
Les hôpitaux et l'école de la débrouille, très souvent pour maintenir les conditions de sécurité sanitaire ou aménager les lieux. Chacun ses solutions. Et près de Lyon, l'hôpital privé de Villeurbanne s'est doté de robots de décontamination aux UV. Ils nettoient régulièrement les salles Covid et l'accueil des urgences. Une technique déjà utilisée aux États-Unis et dans la province de Lombardie en Italie. Christophe Vincent a vu ce robot à l'œuvre.
La chambre d'urgence Covid est bouclée. Au milieu, le robot se met en marche. Le nettoyage dure 5 minutes. Guillaume Ranchon, chef des urgences du Medipôle.
C'est des UV à haute énergie, ces longueurs d'onde, on le sait, ont un pouvoir contre les pathogènes, les bactéries, les virus, mais aussi les champignons. L'efficacité est démontrée par des tests avec une réduction majeure de la quantité de pathogènes présents dans l'environnement. La machine est efficace dans un rayon de 4 mètres environ.
Lors d'un nettoyage manuel, 50% des surfaces restent infectées. L'hôpital est prêt à payer 180 000 euros, le prix du robot, pour protéger son personnel de ménage. Christophe Gagneux, directeur des soins.
Il nous paraît important de l'avoir non seulement dans nos urgences, mais également pour tous nos services d'hospitalisation, puisque au quotidien, il y a aussi des infections nosocomiales que nous redoutons, sur lesquelles nous luttons chaque jour. Et donc cet appareil sera un très beau complément à toutes nos pratiques d'hygiène hospitalière.
Ce robot nettoyeur doit être testé par les marins-pompiers de Marseille et l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Villeurbanne, Christophe Vincent, France Inter.
On en avait beaucoup entendu parler fin mars. L'hôpital militaire installé à Mulhouse est en train d'être démonté, installé pour soutenir les hôpitaux de la région épicentre de l'épidémie en France. La situation sanitaire s'est améliorée dans le Haut-Rhin et le département voit enfin le bout du tunnel. Autre question qui se pose désormais, faut-il reconnaître le Covid-19 comme maladie professionnelle, notamment pour tous les salariés qui travaillent malgré le confinement? C'est une mesure déjà prise pour les salariés de la fonction publique hospitalière. Et même si il est compliqué d'établir un lien formel entre la maladie et l'activité professionnelle, la CFDT et la CGT demandent désormais au gouvernement d'étendre cette disposition à tous les salariés obligés de se rendre sur leur lieu de travail. Manuel Ruffez.
Ce serait la moindre des choses, disent en substance les syndicats qui réclament cette reconnaissance. La moindre des choses pour tous ces salariés qui aujourd'hui vont travailler dans tous ces secteurs de la santé bien sûr, mais aussi l'alimentation, le transport ou encore la sécurité. Le gouvernement le leur doit, revendique Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT.
Le gouvernement se doit soit de se taire définitivement et d'arrêter de remercier ou d'avoir des mots grandiloquents en parlant de ceux qui seraient en première ligne, etc., si finalement ils ne font pas en sorte que les salariés puissent justement être pris en charge correctement et que ça soit vraiment reconnu comme maladie professionnelle.
Seulement, ce n'est pas si simple. Il faudrait des mois de démarche pour cette reconnaissance et le lien travail-maladie n'est pas toujours évident. Alors, entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle, la CFDT prône une troisième voie, l'imputabilité d'office liée au travail. Catherine Pinchot, secrétaire nationale CFDT.
On part du principe que si vous êtes contaminé, eh bien c'est lié au travail. À partir du moment où vous avez travaillé, vous faites partie de ces secteurs d'activité-là. Donc on part du principe que si vous avez contracté le Covid-19, c'est a priori lié au travail et à l'exercice de votre profession.
En attendant, les syndicats conseillent aux salariés malades de se déclarer en accident du travail.
En bref, les kinés vont pouvoir exercer à distance par vidéo. Arrêté publié au Journal officiel aujourd'hui pour réaliser certains actes de rééducation notamment. Mais si et seulement si le patient a pu rencontrer physiquement le praticien une première fois à 13h20.
Le Journal de 13h. Sur France Inter.
Il veut faire avancer le train de la reprise à marche forcée. Donald Trump continue de pousser pour un déconfinement rapide aux États-Unis. Pourtant, le pays est le plus touché au monde, 30 000 morts. Le président américain espère même reprendre rapidement sa campagne pour la présidentielle qui doit avoir lieu à l'automne. Trump qui appelle également à libérer, je cite, libérer le Minnesota, le Michigan et la Virginie, trois États confinés sur décision de leur gouverneur démocrate, Christian Chéneau.
Donald Trump trépigne d'impatience pour faire redémarrer l'économie américaine. Il a discuté d'un plan de déconfinement avec plusieurs gouverneurs d'État et responsables du pays. Nous travaillons sur quelque chose de très intéressant, de très positif. On a passé en revue les consignes pour les gouverneurs pour qu'ils mettent en place une réouverture en sécurité et graduelle de l'Amérique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ces mesures fournissent aux gouverneurs le cadre avec des données, des évaluations scientifiques dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions pour leur État. Mais le naturel, revenons au galop, le président américain s'est aussi lâché sur les réseaux sociaux contre trois États dirigés par des gouverneurs démocrates. Sur Twitter, Donald Trump a exhorté ses partisans à libérer, selon son expression, le Minnesota, le Michigan et la Virginie, trois États où ses supporters manifestent bruyamment dans les rues contre les mesures de confinement décidées par les autorités locales démocrates, bête noire de la Maison-Blanche.
Et hier, les États-Unis ont aussi franchi la barre des 700 000 cas de coronavirus. À l'échelle de la planète, la barre des 150 000 morts a, elle, été franchie également. La pandémie de coronavirus, dont la majorité des victimes, les deux tiers, sont européennes. La Russie évoque des risques toujours très élevés de propagation. Pandémie sous contrôle pour l'Allemagne. Et la barre des 20 000 morts franchie en Espagne. Enfin, en Italie, bonne nouvelle, avec un nombre record de guérisons, plus de 2500 malades. Au Canada, à présent, c'est une maison de retraite de Montréal qui fait polémique. 31 morts en une semaine dans cet établissement. Des résidents ni nourris, ni changés. Et des soignants qui ont déserté par peur d'attraper le coronavirus. Il en reste 3 pour plus d'une centaine de personnes. La situation, Élise Delève, choque les Canadiens.
La situation décrite par les autorités est épouvantable. Par terre, des résidents gisent depuis des heures, incapables de se relever après une chute. Certains n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, d'autres n'ont pas été changés et vivent dans leur couche pleine. Des aînés sont même retrouvés morts dans leur lit. Les soignants du centre d'Erone ont abandonné les résidents après l'augmentation des cas de coronavirus, au moins 31 morts en un mois. Cette histoire tragique, même si elle se déroule dans un établissement privé, met en lumière le problème du traitement des personnes âgées au Canada. Il est le parent pauvre du système de santé, notamment les EHPAD, appelés CHSLD. Face à la polémique, François Legault, le premier ministre du Québec, a fait son mea culpa.
Je l'avoue, puis je prends la pleine responsabilité. On est rentré dans cette crise mal équipé. Et évidemment, la situation s'est détériorée. Aujourd'hui, on est rendu à 1800 personnes qui sont absentes dans les CHSLD. Donc, ça vient s'ajouter aux problèmes qu'on avait déjà à combler des postes avant la crise.
Les postes dans les EHPAD canadiens attirent peu les soignants car ils sont très mal payés. Le premier ministre du Québec envisage dans l'urgence d'augmenter les salaires.
Élise Delève, rédaction internationale de France Inter. Coronavirus oblige. Élisabeth II renonce au traditionnel coup de canon habituellement tiré pour son anniversaire. Une première en 78 ans de règne. La reine d'Angleterre les juge inappropriés en ces temps de lutte contre l'épidémie. Elle fêtera mardi ses 94 ans. En bref, à l'étranger encore, à Hong Kong, pendant que le monde a les yeux rivés sur le Covid, vague d'arrestations contre des leaders de l'opposition. Au moins 14 personnes accusées d'avoir promu les immenses manifestations de l'an dernier ont été arrêtées, donc parmi elles un célèbre mania des médias et plusieurs parlementaires. Retour en France, à Marseille, la croisière ne s'amuse plus. Croisière sans fin sur le Costa Deliciosa. 1400 touristes à bord, dont de nombreux Français partis en janvier pour un tour du monde. Le paquebot a fait escale dans la cité phocéenne, mais le débarquement des passagers a été refusé. Il va encore falloir patienter au grand regret d'un passager que Jérôme Val a eu au téléphone.
Avec sa femme et son fils, François pensait enfin voir le bout d'un long tunnel, une escale à Marseille pour rentrer chez eux à la maison en région parisienne. La préfecture des Bouches-du-Rhône a mis fin à cet espoir.
On est très déçus par l'attitude et de Costa, on va dire, et du gouvernement français. Ça paraissait pas très compliqué de trouver un accord. On n'a pas d'échéance. On sait qu'on sera à Barcelone le 19 et le 20. Et on ne sait pas où on va après.
Pour le préfet, cette escale non prévue dans le parcours initial n'a pas lieu d'être puisque la destination finale du voyage est l'Italie, toute proche. La préfecture rappelle aussi qu'elle a accordé des dérogations pour 6 paquebots depuis la mi-mars. Un septième doit accoster lundi. Le Costa Deliciosa, lui, compte 461 Français à son bord qui ne comprennent pas pourquoi personne n'a mis fin à ce voyage, plutôt comme le détaille François.
Dans la mesure où, dès l'Australie, Costa connaissait déjà la situation et savait qu'il ne pourrait plus nous faire faire du tout le tour du monde prévu et que tous les ports étaient déjà en train de se fermer quand on a quitté l'Australie, on ne voit pas que Costa ne nous ait pas proposé à ce moment-là de nous rapatrier directement vers nos pays d'origine.
François et sa famille se sentent prisonniers de ce bateau, ils n'ont plus touché terre depuis plus d'un mois.
On a fait un demi-tour du monde, mais c'est vrai que ça se termine mal, on est déçus de la façon dont tout ça a été géré.
Et le voyage devrait donc durer encore de longues journées, sans doute jusqu'à l'Italie.
Jérôme Val, parce qu'il est important de les entendre, nous avons créé un podcast à France Inter, Parole de soignants, vous le connaissez désormais. Là, c'est le témoignage d'un enfant de soignant que vous allez entendre. Maxime a 14 ans, il est collégien à Vesoul en Haute-Saône. Ses deux parents sont médecins au front, mère gynécologue, père hématologue. Pendant qu'ils sont absents, c'est le collège qui prend le relais.
Moins notre papa parce qu'il travaille plus quand il rentre de garde, qu'il est plus fatigué. C'est un métier aussi qui est à risque et il faut avoir le courage de le faire. Il y a ce côté un peu côtoyer la mort, ça me fait un petit peu peur et je suis quelqu'un de sensible et je me vois pas faire ça du tout plus tard. Quand il rentre et puis qu'il dit qu'il a signé 3 papiers de décès, c'est pas forcément très facile aussi pour nous. Je comprends qu'il puisse pas s'occuper de moi et oui, j'accepte le fait d'aller à l'école la journée. Je suis en classe de 3e, donc d'habitude on est 30 dans la classe. Donc sur le collège, on était 6. On peut un peu causer, mais pas trop. Il y a plus d'un mètre entre nous. Voilà, on voit des gens de notre âge, on peut parler comme des adolescents normaux. Ça fait une autre présence humaine que la famille et ça fait du bien. Je vois ça plutôt positivement. Je me dis que c'est une épreuve qu'on vit. Et le fait que nous, on soit à l'école, ça nous crée de nouvelles amitiés et où ça améliore certaines autres. C'est une épreuve de la vie difficile, mais qui, j'espère, nous enrichira à l'avenir.
Voilà, quand l'école peut permettre aux enfants de soignants de discuter, d'échanger témoignages recueillis par Cécilia Arbona. Terminons avec cette suggestion pour occuper votre week-end. La saison 3 de Killing Eve, série à succès, plusieurs fois récompensée. L'histoire d'une tueuse à gages qui joue au chat et à la souris avec une agent du renseignement britannique, Alexandra Akoun.
I am so much happier now she's dead.
Et c'est reparti pour une nouvelle saison de la toujours aussi déjantée Killing Eve, un retour qui ne devait pas se faire avant le 26 avril sur la chaîne américaine AMC, sauf qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, le final d'une autre de ses séries phares, The Walking Dead, a pris quelques retards au niveau de la post-production, impossible de finir le travail à temps pour remplir le vide laissé par ces zombies. AMC a donc décidé d'avancer la diffusion de Killing Eve, pour la plus grande joie des fans du monde entier, qui ces derniers jours sur Twitter décomptaient les heures, les séparant encore de leurs héroïnes préférées, la tueuse psychopathe Villanelle et l'agent du MI6 Yves Pelostri. Car Yves est bien de retour, malgré une fin de saison 2 qu'il a laissée pour morte dans les rues de Rome. On ne vous divulgâche rien, sans elle, la série créée par Phoebe Waller-Bridge n'avait plus de sens, elle qui repose sur la relation ambiguë entre les deux femmes. Féministe, Killing Eve l'est jusque dans son écriture, une nouvelle scénariste aux commandes chaque saison, depuis que sa créatrice est partie travailler sur le dernier James Bond et pour HBO. Cerise sur le gâteau, une Française a rejoint le casting cette année, la comédienne Camille Cotin.
Killing Eve, recommandé par Alexandra Akoun et sa formidable bande originale aussi, c'est à voir sur Canal Plus Série, un épisode par semaine. Autre recommandation pour varier les plaisirs, 10 documentaires à voir gratuitement en ligne, du génie du dessin animé japonais Miyazaki aux coulisses du doublage de films par exemple. Sélection à lire sur franceinter.fr. Enfin, combler le vide qu'a créé la mort du chanteur Christophe dans nos cœurs. Nouvel hommage au dandy un peu maudit sur France Inter cet après-midi pour réentendre son style différent de tous les autres à 15h. Rediffusion d'un éclectique de 2013, entretien avec Rebecca Manzoni, puis d'un concert au studio 104 à 13h29. Dans un instant, CO de mon amour. D'abord, la météo. Le ciel se couvre, Jean-Michel Golinski.
Les conditions changent et un ciel orageux va pratiquement se généraliser cet après-midi du nord de la Seine au Grand Est et du centre en allant vers les Pyrénées. Les régions du quart nord-ouest et l'est du Rhône vont rester un peu plus en marge. Notez qu'en fin de journée, une nouvelle vague orageuse qui remonte d'Espagne va toucher le sud-ouest du pays. Les températures de l'après-midi, stationnaires ou presque, sur les régions méridionales vont perdre 3 à 5 degrés par rapport à hier dans toute la moitié nord du pays. Demain, c'est dans le sud-ouest que les valeurs vont baisser avec un dimanche pluvieux orageux dans la moitié sud et près de l'océan, tandis que le soleil va revenir plus au nord après l'évolution favorable des grisailles.